Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retro Gaming. Alors cette fois-ci, on va parler de la Nintendo 64. Comment elle est sortie, de quelle manière elle est arrivée en Europe chez nous, à quelle période, est-ce que c'était la bonne période? On va surtout se poser cette question-là. On va aussi évaluer la bête hein, pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre à l'époque. Et on va discuter de ça donc avec Nico. Comment tu vas, Nico?
Ben, ça va très bien, bonsoir à tous. Je suis ravi une nouvelle fois de faire ce podcast sur cette console qui peut faire débat, quoi. Il y a pas mal de choses à dire dessus.
Ouais, il y aura pas mal de choses parce que c'est une console qui est arrivée à un moment où justement les consoles étaient beaucoup sur CD-ROM et avec des projets vraiment de capacité énorme. La Nintendo 64 arrive un peu sur le tard, et surtout pour nous en Européens, elle va arriver en 97 cette console. Et c'est vraiment compliqué par rapport aux gamers qui sont déjà dans un... Enfin, surtout les programmeurs, ils sont dans une réalisation de jeu vraiment pour le futur, et la N64 avec ce format cartouche va un peu brider quelque part les gamers et puis les créateurs de jeux. Comment est-ce que toi t'es venu à cette N64? Est-ce que t'as pu la voir dès la sortie chez des amis ou...
Alors, c'est une console que je n'ai jamais possédée, ouais. Que j'ai eu très tard pour faire ma collection de jeux. Par contre, c'est une console à laquelle j'ai beaucoup joué, plus que la PlayStation en fait, à l'époque. Bien sûr, à l'époque, hein, elle est sortie en 97. Mes premières impressions étaient que la manette était bizarre par rapport à ce que proposait PlayStation ou la Saturn. C'est une console qui m'a quand même fait envie par rapport à International Superstar Soccer, pardon. Je l'avais déjà dit hein, qu'on avait fait la saga ISS. C'était un jeu qui me plaisait, je le trouvais beau. Pourtant, bon, c'est vrai que quand on regarde maintenant, c'est vraiment moche par rapport à ce que pouvaient proposer les autres consoles. Mais voilà, c'était un jeu qui me plaisait bien. Mais je ne l'ai jamais eu. J'avais la Sega Saturn à l'époque. Donc pour moi, je voyais pas l'intérêt de changer de console tout de suite, quoi, en fait. Hein. Surtout qu'après, je suis passé par PlayStation.
C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de gens qui se sont tentés un peu dans le gaming avec, tu sais, Philips, le Mega CD oui. de Sega, qui est arrivé après la Mega Drive, un peu pour faire perdurer cette console. Et puis les éditeurs ont fui le support cartouche. À un point où il y a une petite période de latence entre 94 et 96 où pratiquement personne voulait créer des jeux pour la Mega Drive, des nouveaux jeux en 96. Mmh. C'était vraiment le support CD, le futur du gamer dans l'idée des créateurs. Et se retrouver avec cet ovni à un moment donné. Qui a été estampillé 64 bits alors que sincèrement elle était en dessous d'une PS1 quoi, c'est ça le problème. Et le 64 mégas c'est un peu un support bâtard quoi, parce que finalement t'as une carte graphique qui est
en dessous de ce que peuvent proposer les autres de toute façon hein. Tous les jeux qui seront proposés seront beaucoup moins beaux que ce que peuvent proposer PlayStation ou même la Saturn quoi.
Bah, l'avantage qu'avait le support cartouche que Nintendo voulait à tout prix garder, c'était que déjà premièrement les temps de chargement, ça permettait aux joueurs de jouer assez rapidement
ouais.
Sans attendre, etc. Et puis la vraie première raison, c'était qu'ils voulaient contrecarrer le piratage à tout prix qui était en expansion énorme sur PC et puis sur console de salon avec la PlayStation et la Saturn. Le support permettait pas forcément les copies, sauf à partir peut-être d'un disque dur qui se vendait plus ou moins dans les coulisses en Chine ou etc. Mais c'était pas un produit officiel ou qui était fait en série pour les gamers. Donc finalement, les gens étaient obligés d'acheter des cartouches qui se vendaient assez cher. Hein. Je sais pas si tu te souviens des prix, 499 francs ouais. Cartouche quand même.
Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pensé, je me suis dit, s'ils la vendent en cartouche, c'est que sûrement ce sera moins cher que ce que pouvait proposer PlayStation ou Sega, la Saturn. Et finalement, tu te rends compte que c'est exact, ils s'alignaient à peu près au même prix que les deux concurrents, quoi. Ouais. Et ça restait quand même assez cher, quoi. Surtout bah t'avais pas le droit de te tromper quoi, parce que franchement t'avais des jeux c'était pas terrible quoi sur cette console.
Bah c'est cette console finalement elle est née assez rapidement dans l'esprit de Nintendo qui voulait déjà la sortir plus rapidement, parce que je pense que la grosse erreur marketing qu'ils ont faite, c'est surtout de pas avoir pu sortir cette console avant la PS1. Et ça a été un... Parce que faut dire que, comme on avait dit dans l'émission d'avant, c'était que il y avait un projet en coopération avec Sony pour faire la PS1. Il y avait, c'était Nintendo qui devait faire de la Super Nintendo, si tu veux, un lecteur CD-ROM pour faire la PS1 à la base. Et finalement, ils se sont retrouvés avec un projet qu'ils ont, à mon avis, repris en cours, qu'ils avaient un peu abandonné. Parce que la Nintendo 64, à la base, est née dans l'esprit Nintendo en 93, début 93. Et elle a ce nom de projet Reality. C'est un nom assez vague, un peu comme aujourd'hui on avait le projet Scorpio, là, tu sais, pour la prochaine Xbox. Et donc finalement, c'est une console qui va aboutir, mais je pense que, tu vois, le fait qu'elle soit un peu sortie d'une manière... pas précipité, mais il fallait que Nintendo réagisse à Sony. Ils ont sorti la console, mais tu sens que il manque des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de RAM pour certains jeux, donc la résolution n'est pas au top, il y a un effet de flou sur l'image.
Ah, bah ça, il y a beaucoup de jeux qui ont cet effet de flou, et puis il y a un effet de saccade aussi.
Et puis nous, en Europe, on a été les mal lotis, parce qu'on n'a pas eu ce signal RGB qui avait été inséré dans les consoles japonaises. Et nous, avec la production qui est arrivée beaucoup plus tard en Europe, Nintendo, pour faire des économies d'argent, a retiré ce signal RGB des consoles. Et nous, on s'est retrouvé avec le signal RCA d'origine, les fiches jaunes, blanches et rouges pour le son.
Oui.
Et c'est le pire signal pour retranscrire la vidéo à l'image. Donc, t'avais beau avoir un super beau jeu, les Mario 64, etc., qui était assez beau.
Qui était déjà beau, oui, c'est sûr.
Parce que le problème de la PS1, c'était que ça pixelisait beaucoup. Et là, t'avais une image lisse, propre, mais floue.
Ouais, c'est ça.
Donc, il y avait aussi un bon setlist de départ aussi, avec des jeux comme Pilot Wings. Nintendo a repris toutes ses licences phares, comme Wave Race, Star Fox, qui avait sur Super Nintendo aussi. Le Mario Kart aussi, il y a eu un Star Wars qui a été prévu.
Les Zelda et trucs comme ça, ouais.
Ouais, les Zelda.
Donkey Kong, voilà.
Il y a eu aussi la série Kirby qui a été... Toi, tu me disais que t'adorais Kirby, alors.
Alors, celui-là, j'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça venait de la manette. Moi, j'ai eu un problème avec cette manette-là. Bon, je sais que maintenant, cette manette, elle passe assez bien, mais... je trouve que c'était mal, les boutons étaient mal dispersés quoi en fait. Donc j'ai pas du tout accroché sur 64. Et peut-être que je vais me le reprendre un jour pour tester, mais c'est peut-être le seul support auquel je suis pas resté longtemps pour tester quoi, pour jouer.
Et Nintendo s'est quand même inquiété par rapport aux éditeurs tiers, si tu veux, qui devaient produire des jeux sur leur console, parce que finalement, ce support cartouche a un peu fait réfléchir certains éditeurs. Et t'as eu des gens qui ont mis un peu de temps à venir, comme Electronic Arts, qui sont pas venus tout de suite. Par contre, Nintendo avait ses créateurs phares comme Rare Software de Silicon Graphics, avait fait déjà les Donkey Kong, et qui avait signé en avance pour adapter leurs jeux d'arcade comme Killer Instinct, Cruising USA, qui étaient en salle d'arcade, pour les adapter sur la N64. Donc si tu veux, tu avais déjà un éditeur qui promettait des jeux à Nintendo, en plus de licences phares de chez Nintendo. Ça, si tu veux, ça confortait un peu dans l'idée que la console ne mourrait pas finalement tout de suite, un peu comme malheureusement la Dreamcast... a subi un sort assez rapide, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éditeurs tiers qui sont venus apprivoiser la fin de cette console quoi. Et on s'est retrouvé avec une sortie décalée entre le Japon et l'Europe.
Oui.
Et je me demande
plus d'un an même.
Ouais, c'est énorme. Énorme, parce que quand tu repenses à la PS1 qui avait déjà été bien établie en Europe, en plus avec les jeux en import que des joueurs avaient installés dans leur console déjà avec les Switch, etc. Là, on te proposait une console en cartouche avec des jeux pas forcément mieux faits, ni avec un meilleur son. C'était compliqué de dire à un gamer, bah, abandonne ta console Sony ou ta Saturn pour prendre une 64.
Faut vraiment, voilà, mais faut vraiment avoir un jeu qui nous plaît vraiment. Peut-être un jeu RPG que c'est bien faire Nintendo. Peut-être, on en parlait, les Smash Bros, je sais pas quoi, la Brawl, là, ouais. Tu sais, les jeux de combat avec Mario et puis tout l'univers Nintendo. Mais de lâcher sa PlayStation à la Nintendo 64, sans vraiment aimer un jeu particulier sur la 64, il y en a eu très peu à mon avis, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Et puis tu passes d'une petite manette assez agréable à utiliser. Bon, il y a que 4 boutons, enfin en tout t'en as 8 sans les sticks, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, les sticks sur la PlayStation. Et là tu passes avec une grosse manette en trident là. Enfin voilà, moi j'ai un gros problème avec cette manette quand même.
Oui, bon, on va parler des accessoires de toute manière. Et regarde, il y a un fait étonnant, c'est que Nintendo a sorti cette console au Japon en avant-première au mois de juin 96.
Ouais.
Et il faut attendre septembre 96 pour avoir des nouveaux jeux qui apparaissent. C'est-à-dire qu'ils ont fait une setlist de 3 jeux seulement pour le Japon.
En 3 mois, quoi, ouais.
Et je veux dire, les gamers, ils n'avaient pas forcément l'horizon pour espérer autre chose qu'un Mario et qu'un Pilot Wings. Ouais. C'était assez faible, hein, faut dire, hein, le vrai lancement au Japon. Il n'y a que 300 000 unités qui sont vendues de la console. C'est vraiment pas énorme. Hein.
C'est peu, ouais.
C'est assez peu, surtout pour une console Nintendo. Quand tu connais le succès de la Game Boy, de la Super NES, de la Famicom aussi dans l'histoire, se retrouver avec une N64 qui finalement a du mal à démarrer sur le continent de naissance.
C'est la fout mal, c'est la fout mal. Alors, est-ce qu'ils ont voulu plutôt le qualitatif au quantitatif? Je sais pas, mais ça fait très peu pour un lancement de console. Maintenant, tu peux compter à peu près plus d'une dizaine de jeux à la sortie d'une console. Mais là, 3, c'est rien, quoi. T'es obligé, enfin. Pour l'acheter, faut vraiment aimer les jeux qu'on te propose, parce que sinon, bah, tu dis non, je passe mon tour, je préfère aller sur PlayStation, il y a quand même plus de choix, quoi.
Et c'est une console qui finalement, entre la sortie du Japon et la sortie européenne, a vu une baisse de prix. Bon, ça a été justifié aussi par le fait qu'il y a eu des composants en moins par rapport justement à la qualité vidéo.
Ouais.
Et aussi par rapport au marché européen, parce que comme on disait, la Saturn et la Sony PlayStation étaient tellement établies sur le continent européen et américain que... Finalement, si tu voulais concurrencer quelque chose qui marche, il fallait faire des efforts financiers au niveau du packaging, du prix.
Ouais.
Et Nintendo a dû baisser de quand même 50$ sa console à la sortie.
Mais quand même, ouais.
C'est quand même énorme, quoi.
Mm.
Donc je pense qu'ils vendaient à perte plus ou moins leur console. Comme a fait, je sais plus quelle console était sortie, c'était la PS3, je crois. La PS3, quand elle est sortie.
Ouais.
Au tout début, elle était vendue à perte. Sony avait dit qu'il préférait pouvoir... envahir le marché de gamers de toutes leurs consoles le plus rapidement possible, même s'ils vendaient à perte, quitte à faire plus tard, tu sais, se rattraper sur des petits packaging ou des choses comme ça, mais ils vendaient leurs consoles à perte, quoi. C'était assez hallucinant, et je pense que Nintendo, ça n'a pas forcément été révélé, parce que je pense que, comme tu dis, au niveau communication d'une grande entreprise, dire que tu vends ta console à perte pour essayer de rattraper le marché que tu as perdu depuis un an.
Oh, et puis là, c'est la première fois que Nintendo se retrouve dans une situation comme ça. Ils ont toujours eu du succès dès le début de leur console.
Et de l'avance sur les autres.
Et de l'avance sur les autres. Et là, ils se retrouvent vraiment en queue de peloton. Et en ne sachant rien, enfin ils savent pas quoi faire pour essayer de redynamiser les ventes, parce que t'as quand même un an de décalage entre sa sortie et puis la sortie de, enfin avoir deux, parce que la PlayStation elle est sortie en 95, la Saturn elle a dû sortir à peu près dans les mêmes eaux. T'as 2 ans de retard. C'est fou, 2 ans de retard par rapport à ce que, alors 2 ans pour l'Europe et un an pour le Japon et puis pour les États-Unis, pour l'Amérique du Nord. Mais ça fait quand même beaucoup, et j'ai pas l'impression que ils étaient complètement largués, ils savaient pas quoi faire.
Ah ouais. Ah, on est d'accord. Et c'est une console, regarde, qui avait une capacité au niveau de la RAM et mémoire cache. justement, tu sais, pour permettre une meilleure résolution et puis un stockage de données assez important durant un niveau. Par exemple, si tu veux, sur PS1, tu avais souvent le CD qui se mettait en marche quand tu progressais dans le niveau. Oui. Donc finalement, la mémoire cache s'effaçait et était réécrit par-dessus au moment où tu progressais dans un niveau. Sauf que là, sur Nintendo 64, tu pouvais pas faire ça. Il y avait tout sur la cartouche. Et c'était au moment où tu, justement, changeais complètement de niveau que là, la mémoire cache s'effaçait. C'était pas progressif. Et le problème qu'il y avait, c'était que les jeux étaient plus ou moins assez courts. Sauf si tu baissais la résolution, la qualité graphique de certains jeux pour compenser et rajouter plus de programmes sur la cartouche. Et finalement, t'as eu des jeux qui ont été massacrés graphiquement. Et je pense à des jeux peut-être comme Perfect Dark. Il y a des jeux comme les Quake. Il y a eu Rayman. L'avantage qu'ils ont eu, Rayman, c'est que ce genre de jeu est sorti au moment où il y a eu l'expansion pack. Ils ont sorti une petite cartouche que tu insérais dans l'avant de la console qui te permettait d'avoir 4 mégas de RAM en plus, mémoire cache. Et ça te permettait d'avoir une meilleure résolution, ça compensait, mais tu perdais les images par seconde.
C'est ça.
Donc c'était à toi de voir si tu préférais jouer avec une meilleure image ou alors un jeu moins fluide.
C'est
assez compliqué hein, quand même. Hein. Je pense surtout aux Rogue Squadron, les Rogue Squadron qui étaient hyper beaux sur PC, qui étaient limite trop nets. Et sur la N64, t'avais cet effet de flou tout le temps. Et c'était bien et pas bien, c'est-à-dire que il y a des moments où t'étais vraiment dans le jeu quand t'avais des décors de dunes, de sable avec l'effet de brouillard, mais dès que t'étais dans l'espace ou les environnements marins, tu ne comprenais pas grand-chose.
Il y a un jeu aussi qui me faisait. Je suis pas fan de Star Wars, mais c'est pas que je suis pas fan parce que je n'aime pas, c'est que je me suis jamais vraiment pensé. Ouais. Mais j'allais souvent chez un copain qui l'avait cette 64 et je jouais tout le temps à ça chez lui et il avait le Star Wars Shadow of the Empire. Voilà. Ouais. Et ce jeu-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Déjà, tu sais pas quel héros c'est, et puis t'es dans un univers. Alors à un moment, t'es dans un espèce d'énorme hangar où il y a un brouillard énorme, et il y a trois fois rien dans ce hangar. T'as quelques ennemis qui arrivent, t'as un effet de vide dedans en fait.
C'est ça.
Et ça gâche mais complètement le jeu, quoi.
Ah c'est ça, c'était le gros souci de chez Nintendo pour l'Ultra 64 qu'ils avaient appelé. Ils l'avaient appelé comme ça au tout début. Même ce nom, je me souviens, entre nous, on l'appelait comme ça, l'Ultra 64 au début pendant bien une année. Et c'était le gros problème, c'est-à-dire que tu jouais à Turok, tu jouais à...
Ah bah voilà, t'avais que du brouillard, Turok, c'est
pareil, hein.
Ouais, voilà, ouais.
GoldenEye, je me souviens du premier niveau où tu vas t'infiltrer jusqu'au pont là pour mettre la bombe et sauter dans le vide. Il y a pratiquement rien à l'écran. Hein. C'est des masses cubiques assez grossières. Tu vois les visages des personnages. C'est assez fou.
C'est des têtes carrées hein, de toute façon.
C'est grossier. Hein,
c'est grossier.
Ouais.
Bah disons ce qui sauve ce jeu-là et ce qui le rend encore très bon, c'est son mode multijoueur. Mais imagine, il n'y aurait pas eu de multijoueur, ce jeu-là aurait été un jeu comme un autre, quoi.
Oui, comme un autre. Et puis le fait que ça soit James Bond aussi avec les musiques, etc. Ça redore un peu le blason du jeu, mais c'est vrai que t'enlèves un peu tout ça, d'ailleurs la suite qu'ils ont faite sur la N64 avec Le Monde ne suffit pas qui est ratée complètement. Ils ont voulu faire un jeu plus fin avec l'expansion pack et c'est une catastrophe.
C'est ça.
C'est
mais t'as plein de jeux comme ça qui sont sortis. Bon, alors moi je vais parler des FIFA par exemple. Celui qui avait la 64 était complètement lésé par rapport à celui qui avait la PlayStation ou la Saturn parce que il y avait des modes en moins, t'avais des équipes en moins, t'avais des stades en moins, t'avais plein de choses, t'avais un jeu complètement différent en fait. Et t'as plein de jeux comme ça sur 64 qui sont en concurrence avec qui sont sortis aussi sur PlayStation et Saturn et qui n'a pas du tout le même contenu. Voilà.
Oui.
Et tu te retrouves complètement lésé par rapport à ceux qui ont les deux autres consoles, quoi.
Oui, ça c'est. De toute manière, c'était couru d'avance, on le savait. Mm. Nous, dans l'esprit, si tu veux, je me souviens, quand la console est sortie, nous les gamers, on se disait. Est-ce que finalement le format 64 bits qu'ils avaient écrit sur leur console va être respecté? Parce qu'on avait en souvenir la Jaguar qui avait été une catastrophe. Et on s'est dit, ils vont nous refaire une Jaguar bis avec des trucs un peu mieux peut-être parce que c'est Nintendo. Et finalement, c'est pas qu'on en était pas loin, mais le fait que Nintendo, ce soit des professionnels et qui font souvent de la qualité, tu te disais, ça peut pas tomber au niveau d'Atari ce qu'ils avaient fait.
Ouais.
Parce que finalement, Atari, ils n'avaient pas de licence à eux comme des Castlevania, comme des Donkey Kong. Mm. Ils n'ont pas pu créer en coulisses avant que la console sorte des jeux pour la Jaguar. Peut-être que si Atari avait eu des licences fortes et avait eu les capacités de développer pour de la 64 bits, ils auraient pu faire un truc correct.
Ouais.
Mais et Nintendo a réussi plus ou moins. Hein. Mais je pense que si Nintendo avait fait une console CD à cette époque-là, peut-être qu'ils auraient battu Sony. Hein.
C'est ah, ça aurait peut-être marché. Hein. Ils auraient peut-être fait aussi bien que ce qu'ils avaient fait avec la Super NES et la NES. Hein. C'est possible. Après, c'est pareil. Tu sais, Nintendo, c'était pour moi, la 64, elle est quand même destinée. Alors, on va me dire, c'est pas forcément vrai. Mais quand tu regardes un peu les licences qu'ils avaient, c'est quand même destiné à un public un peu plus jeune.
Oui.
Parce que bon, Banjo Kazooie, tout ce qui est Donkey Kong et trucs comme ça, malgré que ce soit des bons jeux, bon, c'est quand même destiné à des publics plus jeunes, quoi.
Oui.
Et ce que j'ai reproché un peu à cette époque à Nintendo, c'est de sortir des titres, Pokémon et trucs comme ça, destinés vraiment aux gamins. Pour moi, j'ai malheureusement eu la mauvaise appréciation de dire que cette console-là était plus destinée aux gamins qu'à un public un peu plus adulte, quoi.
Et c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de la manette, et pour moi aussi c'est un gros problème, c'est-à-dire que alors j'imagine même pas avec des mains d'enfant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux pour les enfants, mais imagine un enfant avec les mains deux fois plus petites que les nôtres, qui veut jouer avec le stick analogique ou qui veut appuyer en même temps sur les boutons, qui veut jouer avec la gâchette,
sais que même maintenant pour moi, j'ai encore du mal petit peu avec cette manette. Pourtant, à la longue, il y a quand même un peu d'ergonomie quand même. Elle est, au bout d'un moment, bon, elle est agréable, mais il y a trop de boutons et le souci, c'est que je sais pas, les boutons me plaisent pas comme ça, quoi.
Bah, ils sont. Moi, je trouve que voilà, j'ai vu le problème comme ça, c'est que les boutons sont trop resserrés.
Oui.
Et par contre, les distances entre les sections sont trop éloignées. Mmh. C'est-à-dire que le petit paddle à gauche où tu joues à des jeux de foot, des jeux de plateforme en scrolling horizontal, il est trop éloigné du stick analogique du milieu.
Ouais.
Tu n'as pas forcément la place de pouvoir jongler entre les petites touches jaunes qui te servent souvent pour la caméra virtuelle, comme dans Rayman, d'appuyer à droite à gauche pour déplacer la caméra, et en même temps jouer avec l'analogique qui est en plein milieu, qui est resserré vers ton abdomen pratiquement quand tu joues, quoi. Et il y a une crispation qui se crée en fait avec tes doigts. Tu peux pas mettre deux mains sur la manette en même temps souvent, quoi.
Non.
C'est souvent une main plus ou moins avec un pouce d'un côté et un pouce de l'autre, mais accrocher la manette comme tu fais sur PS3 ou PS2 avec tes deux mains bien accrochées à la manette, ça se fait pas.
Tu vois, il y a Xbox qui avait sorti une manette aussi à l'époque qui était complètement ridicule, qui était beaucoup trop grosse. Ils ont quand même eu l'idée d'en refaire une un peu plus ergonomique, beaucoup plus adapté pour jouer, et j'ai jamais compris pourquoi Nintendo pour la 64 ils ont jamais pensé à refaire cette manette là. Alors ils en ont refait une, mais à la sortie en 2003, et c'est des Chinois qui avaient fait un espèce, ça ressemble un peu à une manette de Xbox finalement, en fait, où t'as le joystick qui est en haut. En haut à gauche, et en dessous t'as le truc les croix directionnelles, en fait.
Ouais.
Donc ça ressemble vraiment à ce que à une manette de Xbox, même de PlayStation un peu si tu veux, mais voilà, sortie en 2003. Donc de toute façon, elle s'est arrêtée à l'arrêt de commercialisation, c'est en 2003, donc c'est un peu trop tard quoi.
Et ce qui est marrant et triste en même temps, c'est que les jeux les plus vendus sur cette console ont été les jeux qui sont arrivés dans le line-up de départ.
Oui.
Dans l'année qui a suivi la sortie.
Bah, Mario, truc comme ça. Ouais.
Voilà, à partir de 99. Même 98, allez, à partir. Ouais, moi je dis 99 parce que regarde, il y a 3 jeux dans le top 99, mais c'est Pokémon et puis c'est Donkey Kong.
Oui, voilà, ouais.
Mais finalement, les jeux de 97 et 98, là, avec Ocarina of Time, bah, c'est que des jeux qui sont sortis au tout début de la console en Europe. Et c'est des jeux Nintendo. Des éditeurs tiers qui sont arrivés sur la console pour faire des trucs indépendants, bah, ils n'ont pas eu leur. C'est pas qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire, mais je pense qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie vu la limitation de la console.
C'est ça.
On n'a pas vu de grands jeux Electronic Arts, par exemple. Par contre, je trouve que l'adaptation de jeux d'arcade a été plus ou moins respectée à l'époque, c'est-à-dire que des jeux d'arcade sortis en 95, 96, comme des... y avait des... Comment dire... Cruising USA, des NBA Jam, NBA Hang Time, Rampage... Le Rampage américain, ouais. Là, en 3D, et c'était super fun, il n'y a pas de souci, hein, on s'amusait, etc. Il y a eu Hydro Thunder un peu plus tard aussi, qui a été une bonne réussite par rapport à la version Dreamcast, qui était largement mieux, c'est sûr, mais une bonne réussite, là, Hydro Thunder sur la N64. Et je trouve, franchement, il y a eu des bonnes conversions d'arcade, même si la manette, c'est toujours pareil, c'est pas adapté à Mortal Kombat. Tu veux jouer à Mortal Kombat sur la N64, bah. Voilà, tu galères, pas à cause du jeu. Après, il y avait des jeux instinctifs comme les Zelda, comme les Mario 64, le Mario Kart aussi. Bon, tu connaissais les jeux sur Super NES, ça variait pas énormément. Et
finalement, voilà, c'est ça, les jeux qui ont marché, c'est ceux qui ont existé sur la NES avant.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est après les autres, bah t'as eu beaucoup de bouses qui sont sortis, et puis même ceux qui étaient pas présents sur Super NES s'en sont pas forcément bien sortis parce que voilà, ils proposaient des jeux qui étaient jouables mais vides d'intérêt quoi.
Mais ils ont quand même réussi à faire certains jeux de manière honorable parce que finalement quand tu y repenses, faire un jeu de Formule 1 sur Nintendo 64,
oui,
c'est assez compliqué et je pense que ça relevait plus du défi pour eux de faire un bon jeu de course de voiture par rapport à la limitation de d'images par seconde,
ouais, avec l'impression de vitesse et trucs comme
l'affichage,
ça,
l'affichage,
ouais,
de la distance, tout ça.
Mais d'ailleurs, c'est F1 World Grand Prix qui est pas si mal que ça, oui, sur cette console là.
Ouais. Oui, c'est un des meilleurs jeux de Formule 1 de l'époque, hein.
Ouais.
Toutes consoles confondues, hein, parce que Sony, pour faire un bon jeu de Formule 1, ils en ont fait un qui s'appelait Formula One, mais bon, l'IA n'était pas trop présente et puis ça pixelisait pas mal. Si je veux te faire rêver, sur la Nintendo 64, t'avais des résolutions de 640x480 au maximum.
Ouais, avec... alors ça, c'était résolution d'un PC bas de gamme, quoi, de l'époque.
Bah, c'est la résolution deux fois supérieure à une PS1, mais ouais. Voilà, c'est une résolution qui s'affiche seulement avec l'expansion pack.
C'est ça.
Et avec une perte d'image par seconde, donc c'est un peu compliqué. Mais la résolution de base, c'est du 320x240 pour la N64 sans l'expansion pack. Et ça équivaut à ce que faisait la PS1 à l'époque. Sauf que bon, c'était moins net, donc t'avais cette impression de négligence qu'il y avait à l'écran un peu. Qui mettait pas en valeur un bon jeu, quoi. Finalement, tu jouais à un jeu qui était censé être détaillé, mais tu te retrouvais avec un flou intersidéral à l'écran à chaque fois, quoi. Et il y avait ces problèmes de symptômes aussi par rapport aux joueurs, c'est-à-dire que t'avais des joueurs qui avaient assez rapidement des nausées, des mal de tête.
C'est possible, ouais.
Ah, c'est sûr et certain, moi j'ai vu des amis vraiment pas bien jouer au bout d'une demi-heure à certains jeux, quoi, c'était pas possible. Tu voulais jouer à un Doom, tu voulais jouer à un Turok, t'en pouvais plus à un moment donné. GoldenEye, c'est pareil. GoldenEye, la vérité, jouer à 4 sur un écran splitté.
Ouais, enfin ça par contre, ouais, c'est. Surtout si t'avais une toute petite télé, c'était pas top, quoi.
Bah, si on peut vous rappeler les télés de l'époque, soit t'avais une grande télé cathodique, là, qui prenait toute la pièce, que t'avais. Tu sais, qui était. avec un écran projecteur à l'intérieur, tu vois.
Oui, oui.
Les riches avaient ça. Ça coûtait combien? Ça coûtait 30 000 francs la télé ou je sais
c'était
combien.
C'était ouais, ça faisait 5 000 euros à peu près, ouais.
C'était énorme. Et par contre, nous, on avait des télés cathodiques à 35 cm ou 40 ou 45, je sais pas.
Et encore, c'était ce qu'il y avait de plus grand. C'est ce qui était dans la moyenne.
Ouais.
Tu pouvais en avoir des plus grandes télés comme ça, mais ça pesait un âne mort, ce machin.
Oui, ça pesait très lourd, ouais. Et puis ça coûtait cher. Quand t'es ado, tu peux pas te permettre de dire à tes parents, tiens, achète-moi une télé à 50 cm, j'ai envie de jouer à la Nintendo dans ma chambre.
C'est ça.
Et les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, attends, toi, t'es qui? Déjà, on va trouver du travail.
C'est ça.
Et je pense que sur le papier, Nintendo avait plein d'envies par rapport à cette console, des perspectives qu'ils avaient imaginées en mettant un peu tout un tas d'accessoires autour de la console, comme ils avaient fait sur la Mega Drive Sega, avec le Mega CD, le X32, et ça n'a jamais fonctionné.
Non.
Donc je comprends pas déjà l'idée de Nintendo de se dire on va réussir à dépasser Sony en prenant le même chemin que Sega a pris à la fin de sa génération.
Ouais.
Je pense que quelque part ils se montaient à eux-mêmes parce que tu ne pouvais pas concurrencer déjà sur la grandeur d'une œuvre sur une cartouche ou un CD, tu pouvais pas faire une équivalence. Exact, c'était évident que la cartouche allait être en deçà par rapport à la capacité. Ou vendre des jeux avec deux cartouches, hein, moi je sais pas, mais. À la limite, tu sais, mais avec la même résolution, quoi. On arrive toujours au même problème, c'est-à-dire la qualité graphique. Et il faut dire qu'une cartouche à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher à produire qu'un CD. C'était se tirer une balle dans le pied aussi. Tout ça pour éviter le piratage. Je pense que Nintendo a mal réfléchi sur les pour et les contre sur plein de choses. Et la preuve en est, c'est que les ventes au Japon, sur le continent asiatique, ont été catastrophiques sur la durée de vie de la console.
Ouais.
Il y a combien ? Il y a eu 5,54 millions de ventes sur le continent asiatique. Alors qu'en Europe, on a atteint 6,75 millions, c'est-à-dire un peu plus. Alors que pour moi, c'est un échec concret quand tu vois les ventes mondiales au total sur une. Et la console a fini tôt, hein, comme on a dit. En 2003, arrêter de produire la console. Bah, 2003, c'est la fin de la Dreamcast à peine. T'aurais pu quand même continuer un tout petit peu, je pense, tu vois. Mais après, t'as la PS2 qui est là, qui était arrivée. Donc,
voilà. Donc il fallait vite construire une autre console. Et moi, ce que Nintendo a évité par rapport à Sega, c'est qu'ils ont quand même réussi à remonter la pente avec la GameCube après.
Ouais.
Ils ont pas fait la même erreur que Sega en sortant une énième bouse. Ils sont quand même mis au niveau du CD.
Ouais.
Bon, alors bien sûr, pas le même CD qu'est-ce que pouvait proposer la PS2 ou la Xbox. Mais voilà, ils ont quand même réussi à remonter la pente après. Ça aurait pu être fatal pour Nintendo, hein, quand même, hein, la N64. Finalement, ils s'en sortent pas trop mal, quoi. Mais bon.
Oui, ils s'en sortent pas trop mal parce que je pense que s'ils n'avaient pas eu les fonds qu'ils avaient à l'époque par rapport à tous les bénéfices qu'ils avaient fait, tu sais, avec la Game Boy, la Super NES, la Famicom,
ouais.
Je pense qu'ils auraient pu à un moment donné peut-être. Être en grosse difficulté après la GameCube.
Bien sûr.
Parce que la GameCube, si tu te rappelles, je pense qu'on en parlera aussi un jour.
Oui, on en fera.
Elle n'a pas forcément duré longtemps non plus. Hein.
Non, ouais.
Et bon, à chaque fois, Nintendo pense différemment des autres, veut se démarquer par des jeux, par des formats, des cartouches ou des mini-CD comme pour la GameCube. Je sais pas si la solution pour eux, c'était pas plutôt de faire quelque chose de plus avant-gardiste et pas de restrictif dans l'esprit du gamer.
Ouais.
Parce que finalement, on achetait des jeux sur Nintendo 64 à l'époque en sachant que le jeu allait être plus court qu'un jeu sur PS1, qui parfois faisait 4 CD, avec des musiques symphoniques magnifiques en stéréo, en Dolby Surround, alors que sur la N64, c'était du stéréo, mais compressé à mort.
Ouais, et puis des fois qui crachait un peu, quoi.
Oui, oui, étouffé, là. Il était étouffé, je me souviens, quand tu jouais à Hydro Thunder, c'est un bon exemple. Il y a des musiques magnifiques dans certains décors. en arcade et sur Dreamcast, et là sur la Nintendo, bah c'est du son étouffé. Même FIFA, les jeux de football, là il y a pas de chant de supporters pratiquement. C'est
il y a qu'un commentateur en plus. Alors c'est là que tu te faisais avoir aussi, c'est que quand t'avais la PlayStation ou la Saturn, t'avais les commentaires en français. Et dès que tu passais sur N64, t'avais que les commentaires en anglais.
Ouais.
D'ailleurs, en plus, ils se sont arrêtés à FIFA 99. Il n'y a pas eu de suite après. Hein. Il n'y a pas eu de FIFA 2000, il n'y a pas eu de FIFA 2001. Ils ont tout de suite arrêté la production.
Ce qui est dommage aussi, c'est que la console est arrivée en fin de vie à une époque où les deux compagnies qui avaient lancé l'expansion pack avaient réussi à produire des jeux qui étaient un peu mieux visuellement que ce qu'il y avait au tout début
plus
de la console.
Plus fluide et plus jouable déjà, ouais, c'est sûr.
Parce que quand tu vois là, sur la fin de la console, Rayman 2 par exemple, qui je trouve qu'il est super beau pour la console. Donkey Kong, je trouve qu'il l'exploite pas vraiment, il a été sorti un peu... De toute façon, l'histoire de Donkey Kong 64, si vous la connaissez, c'est un jeu qui devait sortir à tout prix par Nintendo avant les fêtes de Noël. Pour justement faire vendre la console à Noël et faire un pack et ceci cela, et le jeu était bâclé en conséquence, et malheureusement le Donkey Kong 64 il restera pas dans les annales alors que c'était une grosse licence de la console. C'est vraiment dommage. Rare et Factor 5 là, ils avaient réussi à faire des superbes trucs à la fin, malheureusement la console
était en fin de vie.
C'est marrant parce que la console elle meurt pratiquement en même temps que la Dreamcast.
Ouais.
Elle a fait un petit bout de chemin avec. Il y a eu des Pokémon, il y a eu des... Bon, ça a amusé les gens parce que Nintendo a exploité à fond cette licence qui marchait bien. Et je pense que c'est une chance qu'ils ont eu parce que Dreamcast n'a pas eu de Pokémon, Sega. Et je pense que tu vois, mais si Sega avait pu récupérer la licence Pokémon, peut-être qu'ils auraient survécu et la Nintendo 64 aurait disparu.
C'est possible, ouais.
Parfois, ça se joue à une licence près ou deux, la durée de vie d'une console. Aujourd'hui, au niveau de l'Argus, bah, ça vaut pratiquement rien. Ça prouve vraiment que même les collectionneurs ne sont pas forcément demandeurs par rapport à cette console.
C'est ça.
Ce format. Et je dis pas que c'est triste, mais c'est une période. Pour moi, c'est une période noire de Nintendo où ils se sont cherchés, ils se sont manqués sur une période qu'ils auraient peut-être dû dominer. Quand tu te rappelles de la NES qui a marqué une génération pendant 5-6 ans.
Ouais.
Pour moi, la NES, c'est la première console qui dépasse
l'imagination. Ça dépasse tout hein, de toute façon. Mais pour moi, je pense qu'ils avaient tellement... ils étaient tellement sûrs de pouvoir sortir quelque chose avec Sony à l'époque... je pense qu'ils avaient pas forcément vraiment de plan B en fait.
Ouais.
Et ils se sont lancés dans un truc très rapide à faire, très rapide à produire. Malheureusement, ils se sont plantés quoi, tout simplement. Hein.
Je sais pas si t'as pu y jouer, mais t'en penses quoi de ces références dont on parle comme les Zelda Ocarina of Time ou ces jeux? Parce que moi, sincèrement, les Zelda, quand je les revois aujourd'hui sur la N64, j'ai du mal à me dire que. Je pourrais y rejouer en refaisant tout le jeu. C'est que graphiquement, ça a tellement pris un coup de vieux, mais énorme. Il faudrait que pour moi, le jeu soit lissé, soit refait, pour que je puisse aujourd'hui, en tant que gamer en 2019, me dire, tiens, je vais rejouer à ça.
Ouais, mais moi, je suis à peu près pareil que toi. Je pense qu'à l'époque, ça aurait été un jeu que... Bon, j'y ai jamais joué, à vrai dire, tu vois.
Ouais.
Mais je me souviens, par exemple, de Mario... Bah, par rapport à ce que proposait PlayStation avec des jeux en 3D qui étaient, t'avais toujours des problèmes de caméra, enfin c'était horrible. Là, que ce soit pour Zelda et même pour Mario, c'était super agréable à jouer. Les caméras répondaient très bien à ce que tu voulais faire. Le joystick était là pour le coup, même si c'était pas bien placé, il était quand même très bien pensé. Et voilà, pour moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais pas hésité à me prendre ce jeu-là parce que voilà, c'était tout nouveau, c'était encore le début de la 3D, hein, 97. Bon, la 3D existait depuis 2 ans, mais t'avais encore pas à l'époque un jeu qui était top pour pouvoir jouer sur PlayStation et trucs comme ça. Et là, tu débarques, on te fait débarquer Zelda et puis Mario avec une jouabilité conséquente avec une caméra qui répond bien, bah c'était le top à l'époque. Maintenant, c'est vrai que ces jeux-là, bon, j'y ai joué, ils ont quand même assez mal vieilli. Hein.
Les premiers jeux, moi, qui m'avaient mis une claque sur cette console, c'était le ISS 64. Le
jeu ouais, moi aussi. Parce que... Je rêvais de ce jeu, ouais. Ils avaient vraiment fait un vrai jeu de... Alors c'est pas vraiment une simulation, c'était mélangé arcade simulation ce jeu-là. Mais t'avais une caméra qui était bien faite, t'avais la gestuelle des joueurs qui était quasi parfaite. D'ailleurs ils l'ont sorti en 96, en 97 FIFA a voulu, eSports a voulu sortir son FIFA, c'était FIFA 64 qui était minable souhait.
C'était l'adaptation de FIFA 96 sur PS1.
Voilà.
C'est exactement le même.
Ouais, FIFA 96 mais en beaucoup moins bien quoi sur le
oui,
pour
avec
le
avec
quoi.
La manette 64 déjà voilà.
Voilà ouais, avec un jeu mais manette 64 et puis une jouabilité dégueulasse quoi, c'était injouable, totalement injouable. Mais par contre moi c'est vrai que ce ISS là m'a fait rêver la nuit et c'est pour ça que bon, je me tâtais quand même à prendre cette console et puis finalement bon, j'ai quand même gardé la console que j'avais, mais c'était vraiment bien à l'époque ce jeu.
Voilà, il y avait certains jeux qui te mettaient une claque par rapport à la période à laquelle ils sont sortis, qui étaient en avance.
Ouais.
Voilà, on a cité quelques jeux, mais par contre, t'avais d'autres jeux qui ont été adaptés sur tous les supports, comme je pourrais pas te dire les noms tout de suite, ouais. Mais il y avait eu, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais Rayman, t'avais Rayman sur une PS1 et Rayman sur une N64, et ben tu te disais finalement j'ai pas de N64, c'est pas grave parce que finalement sur PS1 il était bien et ça suffisait.
Ah oui.
Et je connais des gens moi qui avaient acheté la Nintendo seulement pour avoir des GoldenEye, des Star Wars.
Pokémon c'était spécialement sur la Nintendo, donc voilà, pour ceux qui vraiment aimaient ces licences-là, ils n'hésitaient pas, ils allaient sur la 64 et ils y trouvaient leur compte en plus. Hein.
Ben, y a eu des bonnes licences qui sont sorties de la Super NES à l'époque, comme F-Zero X,
ouais.
Qui était vraiment un super bon jeu. Par contre, très vide au niveau des décors, ça c'est la vérité.
Ben, voilà. Ouais.
C'est-à-dire que pour que le jeu aille aussi vite et être aussi fluide que sur Super NES, il fallait à tout prix enlever des choses à l'écran et bon, le jeu se retrouve avec finalement une piste, des ennemis et même parfois il y a des circuits qui vont très très haut dans l'air où le circuit disparaît et t'es guidé par un circuit lumineux qui apparaît plus ou moins, mais ils ont carrément enlevé le circuit à certains endroits du décor. Ils ont usé de stratagèmes, si tu veux, pour que le jeu soit super fluide, pour concurrencer un peu Wipeout à l'époque. Wipeout avait été adapté sur PS1 et Nintendo 64, et quand tu comparais les deux versions, même si la version 64 s'en sortait bien, c'était en dessous de ce que faisait Wipeout
bien
97.
Sûr. Ah bah oui, non mais graphiquement ça a rien à voir de toute façon. C'est pareil pour les Tony Hawk, c'est moi qui adorais les jeux de skate à l'époque, ils en ont sorti deux ou trois. Ça avait rien à voir, c'était ce que proposait la PlayStation était beaucoup mieux, enfin il y avait pas photo quoi.
Je me souviens surtout tu sais de la musique qui était proposée sur la PS1 dans les Wipeout, et tu trouvais sur Nintendo 64 avec une espèce de musique un peu générique techno, mais pas du tout connu et puis
inintéressant, qui allait pas vraiment avec le style de la course quoi.
Aussi on en revient à Resident Evil 2 qui avait été adapté. L'écran se figeait au moment où tu changeais de scène à chaque fois. Et c'était un gros souci. Pareil, l'expansion pack, t'étais obligé de jouer avec, ça créait des problèmes aussi de fluidité dans le jeu. Et quand tu pouvais jouer à une version PS1, bon, pixelisée, mais très 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 nerveuse, tu préférais jouer à l'autre.
Je me souviens des amis à l'époque aussi qui attendaient avec impatience Castlevania et qui avaient été ultra déçus de cette version 64. Mais de toute façon, voilà, on en revient toujours au même, hein, le flou et puis le vide, quoi, en fait.
Oui.
Puis le manque d'intérêt. Tu passais un jeu qui était totalement nul, t'avais l'impression qu'il y avait un autre éditeur qui était passé par là, hein, de toute façon. C'est dommage, je pense que cette console aurait mérité mieux, et oui, je suis presque sûr que cette console aurait fait un succès si elle avait été sortie en CD, je pense.
Castlevania, c'était une licence forte aussi. Ils l'ont bâclé. Ils ont raté quelques licences comme ça, les Donkey Kong, les Castlevania. C'est des choses assez incompréhensibles. Et tu vois qu'ils étaient en souffrance quelque part quand même dans l'esprit. Castlevania, le numéro 2 qu'ils ont sorti sur la console.
Ouais.
Une catastrophe. Mais une catastrophe, c'est-à-dire que c'est pratiquement le 1, mais refait d'une manière légèrement différente. Et mais complètement raté. Tu te demandes si c'est pas un autre jeu et qu'ils auraient pu l'appeler. Je sais pas moi, Persona 3 ou Persona 4 là sur comme sur PS1, ça n'a aucun rapport avec Castlevania pratiquement. Ils ont, tu vois qu'ils ont rajouté 2-3 vampires pour coller à l'histoire, mais
voilà, c'est ça.
C'est Konami qui avait sorti ça et Konami, je pense qu'ils ont pondu un truc en précipitation et il avait été saqué par la critique aussi. Ben bien sûr, il y a énormément de jeux de plateforme en 3D et Nintendo voulait pas d'un jeu comme ça pour leur console.
Ah bah oui.
Ils voulaient un truc assez enfantin, donc ils ont été obligés de retravailler le jeu pour le ressortir d'une manière comment dire, appropriée à un public jeune, etc.
Mais de toute façon, moi la plupart du temps maintenant quand je rachète des jeux Nintendo 64 que j'aimais à l'époque, quand j'y rejoue maintenant, je suis super déçu quoi.
Ouais.
J'arrive pas à retrouver le plaisir que j'avais plus jeune quoi en fait.
Ouais, je comprends.
Parce que la plupart des jeux ont mal vieilli. C'est voilà, y a plus le même plaisir qu'avant quoi. C'est bizarre. Hein.
Non, c'est pas bizarre, c'est que déjà graphiquement, y a un blocage par rapport au choc visuel.
Même avec la télé cathodique, je trouve que ça a quand même mal vieilli quoi par rapport aux jeux PlayStation même autres quoi.
On est d'accord.
Je sais pas si tu connaissais les San Francisco Rush aussi j'adorais à l'époque et qui pareil maintenant c'est horrible.
C'est une catastrophe. C'est une console qui était le plus destinée à mourir que la Dreamcast quand tu y réfléchis hein,
c'est vrai.
Parce que la Dreamcast elle avait tout pour réussir, il y avait internet qui était arrivé à un moment donné.
Ouais.
Même si la N64, ils avaient inséré plus tard dans les ventes un disque dur externe qui permettait avec un modem d'aller sur internet au Japon, seulement au Japon.
Ouais, voilà.
Ouais. Avec trois jeux où tu pouvais jouer en ligne. Il y avait un jeu Pikachu et un jeu je ne sais quoi là.
Bon, un jeu que pour les Japonais quoi.
Oui, voilà. Mais t'allais pas jouer à ISS ou FIFA en ligne. Hein. Enfin,
rêver,
quoi. Ni à GoldenEye. GoldenEye, je pense que ça aurait fait un carton. Ça aurait pu les sauver à une époque.
Ah oui, c'est possible, c'est sûr.
Quand tu vois tout le succès des Doom dans le futur qu'il y a eu après eux, parce que finalement GoldenEye, ils ont créé un genre hein, dans l'esprit. Si ils ont pris l'esprit Wolfenstein qu'il y avait sur PC, ils l'ont transformé un peu. Ils nous ont fait un jeu action aventure stratégie et ils ont créé un petit genre qui est vraiment sympa et
ouais.
Finalement, je pense qu'ils les limitations de la console ont fait que le jeu n'a pas eu forcément l'impact chez tout le monde comme ça aurait dû être le cas quoi.
Mais c'est pas forcément une console à laquelle je vais passer mon argent pour acheter des jeux. Je vais en acheter quelques-uns mais je vais peut-être pas faire une grosse collection dessus quoi, parce que c'est pas une console qui m'a non plus marqué à l'époque quoi. Il y a des très bons jeux. Mais voilà, moi cette console-là, elle reste un peu un ovni, mais pas forcément en bon quoi. Des fois, ça peut être des ovnis un peu comme la Dreamcast,
ouais.
Qui était un ovni, mais qui était un ovni en bien. Là, je trouve que c'était une console qui m'a beaucoup déçu et malheureusement, elle va rester dans les annales parce qu'il y a quand même des jeux qui sont intéressants, comme tout ce qui était Mario, tout ce qu'on pouvait retrouver sur la Super NES. C'est des jeux qui ont très bien marché, des jeux qui ont été très bien retranscrits. Mais t'as une flopée de jeux, la plupart ils sont mauvais quoi. Si t'avais une note sur 20 à donner, ça dépasse pas les 12 sur 20 quoi.
Est-ce que c'est choquant ou pas les notes? Parce que quand tu vois le système proposé, puis les jeux qui étaient meilleurs sur d'autres supports, plus performants. T'avais pas. En plus, le truc, c'était que graphiquement, même si le jeu était bien, et il allait avoir une note moins bonne que sur le support concurrent.
Ah bah bien sûr, mais bien sûr, c'est sûr. T'as totalement raison. Quand tu regardais les bouquins d'époque, donc ils faisaient le test sur les trois consoles différentes, sur la PlayStation, la Saturn et la 64, et à chaque fois ils disaient, mais voilà, la 64 propose une version en dessous de ce que peut proposer les deux autres consoles. C'était presque systématique en fait.
Ouais. Des niveaux en moins,
voilà.
Des graphismes rabaissés, des musiques en moins surtout, comme pour Wipeout on avait dit, Diddy Kong Racing quand ils l'ont sorti, ça devait être une révolution, mais quand tu vois la baisse de framerate quand tu joues, tu te rends compte que c'est largement en dessous d'un Mario Kart.
C'est ça.
Ils avaient voulu intégrer des courses en avion, des courses en bateau. Bah, ça va 5 minutes, t'essayes, mais tu te rends compte que Mario Kart, tu t'amuses plus, c'est plus simple. Et, et Diddy Kong, finalement, il est passé à la trappe assez rapidement chez les joueurs. Et la console n'a pas eu grand-chose pour se rattraper derrière. Hein. Je pense que c'est un peu pour ça que Nintendo s'est dit « on va arrêter là ». En fait, ce qui est dommage, c'est que la console s'est éteinte sans que personne la regrette.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Contrairement à la Dreamcast, voilà, bah, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est une console qui est toujours abordable maintenant. Hein.
Oui, oui, oui.
Tu l'as pour 40-50 euros avec une manette. Et puis, les jeux, si t'es pas trop gourmand, tu peux les avoir à 5 euros. Pas complet, mais même complet, des fois, tu peux en avoir pour même pas 15
pour 20
euros.
Quoi. Voilà, ouais.
20 euros, allez, 20 ouais, euros, ouais
t'as,
voilà.
T'as certains jeux, F1 ouais. Grand Prix, les FIFA, les NBA voilà. Live, Perfect Dark, c'est autour de 30 euros. GoldenEye, c'est un peu plus parce que bon, le jeu il est assez mythique.
Il est toujours aussi coté parce que voilà, c'est un jeu comme tu dis qui est mythique, les Zelda aussi.
Ouais.
Mais même le Super Mario 64, enfin le premier Super Mario, franchement, il est encore valable. Enfin, hein,
oui, il est d'actualité.
Il est abordable hein, de toute façon. Donc, bon.
Mais bon, ça dépasse pas 50 environ. Si tu le veux complet, tu peux trouver un GoldenEye complet avec notice et tout à 50 euros d'occasion.
Il va pas te ruiner quoi, ouais.
Sans te ruiner, Zelda c'est pareil. Bon après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches du mint avec des notices et des boîtes vraiment qualité parfaite, là c'est sûr que ça va être plus de 100 euros. Hein, mais bon. Comme partout, hein, mais ça atteindra jamais ce qui se passe sur Super Nintendo où tu as des jeux, on va dire, avec une qualité moyenne de boîte ou de notice, à déjà 80-90 euros sur des Final Fight ou des Street of Rage sur Mega Drive aussi, Street of Rage 2 et 3 qui sont des prix énormes. Ça peut aller très très vite, quoi. Donc, bon, après Street of Rage 2, bien sûr, tu peux en trouver à 40 euros, hein, mais bon, après, faut voir si c'est complet ou pas. Mais Golden Axe 3, tout ça, ça atteint des prix que je pense des jeux Nintendo 64 n'atteindront jamais. Bon, il y a peut-être un jeu, voilà, Conquer Bad Fur Day.
Ouais.
C'est un nom compliqué à dire. Il y a celui-là qui est autour de 200 euros, 150 euros, parfois complet. Mais bon,
il
ne mérite pas ce prix. Parce que ce n'est pas des jeux de qualité, en fait.
Ouais, voilà, ouais.
Mais il fallait bien trouver, tu me diras, un ou deux jeux à exploiter au niveau des collectionneurs.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas justifié, quoi. C'est ça le problème. Et souvent, les collectionneurs vous diront que les jeux les plus chers, c'est souvent les plus pourris, quoi. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et puis, merci Nico hein, d'avoir participé.
Eh ben de rien. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle hein, sur Podcloud ou maintenant sur iTunes ou bien sûr Spotify aussi. Voilà. Vous avez juste à taper Génération Retro Gaming et puis vous pouvez nous écouter.
Voilà. Bonne semaine à tous. Salut.
Salut à tous.